Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Lou. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui pour vous proposer un podcast, un moment ensemble avec une invitée. Chaque invité changera en fonction de l'épisode. Aujourd'hui, dans le podcast des capacités extrasensorielles, on accueille Cindy, éveil spirituel. Et donc, bienvenue dans ce podcast. Je suis très contente de te recevoir.
Merci, merci. Bonjour à tous. Bonsoir peut-être.
Ça fait longtemps que je t'en parle en plus. Donc, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Et alors, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? C'est à ton tour.
Alors, donc, je m'appelle Cindy, éveil spirituel donc sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai vécu mon éveil spirituel quand j'avais 36 ans, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai découvert un nouveau monde, en fait, plein de possibilités, de magie. Et je me suis spécialisée au fur et à mesure des années de mes recherches, etc. Je me suis spécialisée dans la loi de l'attraction parce que c'est vraiment ça qui me fait le plus vibrer, c'est ce qui résonne le plus en moi. Et c'est ce que j'ai à cœur de transmettre aux gens parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionnait, à l'appliquer. Le grand principe, c'était simple, c'était ce que je désire, ce que je souhaite va se matérialiser, je vais attirer ce que je souhaite, mais après il y a plein de choses à savoir qui font que la plupart des gens abandonnent parce que c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît au début.
Très bien. Donc du coup maintenant tu es spécialisée en loi de l'attraction et ton métier, quel est ton métier?
Mentor en loi de l'attraction et écrivain, puisque j'écris aussi des livres, c'est plus des romances. J'ai commencé avec une saga il y a un peu plus de 10 ans maintenant, sur l'histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. À l'époque, j'étais pas du tout éveillée. Hein. Donc là, c'est vrai que parfois, quand je relis la saga, je me dis « Ah oui, quand même, il y a des passages, je sais pas d'où ça venait. » Et c'est vraiment une histoire d'amour. C'est pour les grandes romantiques, les rêveuses, toutes celles qui ont aimé Twilight, etc. Et puis le dernier, le petit dernier, c'est « Toi, moi et l'univers ». Donc là, c'est encore une romance, mais avec vraiment de la spiritualité, de la magie, que l'on peut retrouver au quotidien. On n'est pas dans Harry Potter, c'est vraiment quelque chose de plus terre à terre, de la magie que tout le monde peut pratiquer en fait. Et si tu veux, c'est la rencontre entre donc Sarah, une jeune magicienne, une jeune sorcière des temps modernes, et Matt qui est un jeune homme qui n'a jamais entendu parler de magie. Donc voilà, c'est un peu la rencontre des deux univers et on va voir ce qui se passe entre les deux.
Bon, mais alors je suis très contente de savoir tout ça, même si je le savais avant, pour être totalement honnête. Mais voilà, c'était important de te présenter. Est-ce que tu connais un peu le concept du podcast que je voulais te proposer ou pas du tout? C'est une vraie découverte.
Bah, de toute façon, j'attends de voir quel est le sujet fondamental du podcast et pour développer. De toute façon, c'est totalement improvisé, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est être authentique et voir un petit peu. Parce que des podcasts, on s'en envoie quand même très régulièrement au quotidien, on parle vraiment beaucoup. Et des fois, on se dit nous-mêmes, on se dit « Waouh, on est en train de se faire des podcasts, des incroyable, réflexions ouais. philosophiques, spirituelles et tout, et on aimerait en fait les partager avec les gens. » Donc voilà, c'est l'occasion de le faire ce matin. Donc podcast du jour, voilà.
Et oui, en fait le concept c'est à peu près ça, c'est de pouvoir partager sur des sujets qui vont être profonds, qui vont être intenses, sur tout ce qui va être à la fois sur les capacités extrasensorielles, sur tout ce qui va être médiumité, parce que du coup pour ceux qui ne le savent pas, moi mon métier c'est d'être médium au quotidien. Je forme aussi des personnes à développer leurs propres capacités extrasensorielles, que ce soit en coaching one-to-one ou en vendant mes formations, tout simplement. Vous pouvez retrouver plein de contenus gratuits en bio, je vous mets tout, je vous liste tout. Vous aurez aussi l'Instagram de Élie Spirituelle, vous aurez tout, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, en fait, je voulais qu'on aille vraiment plus profond en fait, dans la personne que tu es. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais vécu des événements liés à l'au-delà, des événements qui ont été inexpliqués pour toi, qui ont changé ta vie? Quel est en réalité l'événement qui a le plus changé ta vie, où tu as senti qu'il y avait une force là-haut, un univers, un dieu, en fonction de comment tu l'appelles? Est-ce que tu pourrais nous décrire ce moment?
Oui, alors j'aime bien parce que c'est totalement improvisé, hein. Donc là je découvre les questions et je suis là, d'accord, ok. Alors oui, en fait, par contre je me souviens pas exactement quel âge j'avais, je sais que j'étais adolescente. Donc déjà toute petite, j'avais un petit peu la peur de la mort. Ça c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai l'angoisse de qu'est-ce qui se passe, du grand trou noir, la mort, c'était vraiment un truc qui me faisait peur quand j'étais petite. On n'en parlait pas forcément dans ma famille, on n'était pas ni croyants, ni rien du tout, on n'allait pas à l'église, on parlait pas de ces choses-là en fait. Donc j'ai grandi un petit peu avec mes peurs comme ça, sans trop savoir quoi en faire. Et à l'adolescence, j'étais en colonie de vacances quand l'un de mes grands-oncles est mort. est décédé. Et donc, quand je suis rentrée, et c'était un monsieur que j'aimais beaucoup quand même, que je voyais, alors je ne le voyais pas au quotidien, mais c'était quand même quelqu'un dans ma famille qui était important. Il y avait, quand on allait en vacances là-bas, parce qu'il vivait en Bretagne, il y avait toujours des grandes fêtes. C'était quelqu'un qui était lié, si tu veux, à de beaux souvenirs, de fêtes en famille, de réunions familiales, etc. Il y a même des odeurs, tu sais, parce qu'il fumait un certain type de cigarette. Donc, quand je pense à lui, j'ai vraiment des souvenirs vraiment très liés à cette personne. Et en fait, quand je suis rentrée de ma colonie de vacances, ma mère m'a annoncé qu'il était décédé pendant mes vacances, et il était décédé, enterré, voilà, c'était fini en fait.
Ah oui, d'accord, et tu n'as pas eu le temps de commémorer
son... C'est ça, j'ai pas pu participer, si tu veux, j'ai pas pu faire mon deuil, ça a été vraiment du jour au lendemain, il est plus là. Et c'est ça, à ce moment-là, qu'il s'est passé un truc. Il y a eu un déclic, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'il y a ? Après, c'était le premier décès, en fait, si tu veux, dans ma famille. En gros, enfin, non, c'était pas le premier, mais moi, dont je me souvenais, parce que voilà, quand t'es adolescent, quand même, ça marque. Et c'est ça qui a soulevé toutes mes interrogations. Et après, ça a été un long chemin, parce que, justement, je sentais qu'il y avait un truc. Et en même temps, je te dis, on n'en parlait pas du tout, en fait, dans ma famille. Donc, il a fallu que je cherche... Il n'y avait pas trop Internet non plus à l'époque. Hein. C'était pas comme maintenant, on n'avait pas un téléphone de scotché à la main. Donc, les informations n'étaient pas si faciles que ça à trouver. Et du coup, j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'était il y a des années et des années. C'était pas si loin, mais c'est vrai qu'on était vraiment au début. Moi, je me souviens d'avoir du 56K hein, chez moi, hein, la connexion Internet. Hein. Donc, quand il fallait faire les devoirs, tu sais, des recherches sur Internet, je me souviens que la photo, elle faisait comme ça, ligne par ligne, pour apparaître. C'est fou, hein ? Maintenant, bien sûr, on a totalement oublié ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, j'ai mis du temps, en fait, avant de faire des recherches et de trouver des réponses, surtout. Donc, j'ai commencé vers 18-19, je suis allée dans une église, j'ai passé la porte d'une église, je suis allée voir un curé pour lui dire, voilà, je me demande si je devrais pas me faire baptiser, parce que j'avais cette peur, en fait, de la mort encore qui était là, je me disais, si je me fais pas baptiser, je vais aller en enfer.
Incroyable. Et ça, t'avais quel âge quand tu as décidé de franchir la porte
d'une église ? Ouais, 18, je crois. 18 ans. Ouais.
Et donc, raconte-nous l'histoire du curé, on veut savoir l'histoire du curé en détail.
Alors, donc, en France, parce que je vivais encore en France à l'époque, ils ont essayé hein, de m'initier à la religion chrétienne, mais ça c'est pas très bien. En fait, si tu veux, quand t'es adulte, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu es enfant pour te faire baptiser. Quand t'es enfant, c'est pas compliqué, on te fait baptiser, ça dure 5 minutes, basta, on te met l'eau, et puis basta. Quand t'es adulte, on estime que justement, t'as la capacité de croire ou de pas croire en certaines choses, et du coup, tu dois apprendre. En fait, tu fais un peu des études, ça dure en général 2 ans, pour que tu puisses te faire baptiser. Si tu veux, tu dois étudier la Bible, tu dois parler de ces choses-là, assister à la messe, etc. Bah, un peu un rite de passage, finalement, prouver que tu as vraiment envie d'être baptisé. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais étudiante. Et puis, en fait, la dame que l'on m'avait assignée, parce qu'on t'assigne un petit peu un tuteur. Oui, des fois, je ne sais plus les mots, ça fait la moitié de ma vie que je vis en Espagne. Alors, des fois, j'ai des doutes. Et en fait, avec cette dame, en fait, elle m'avait donné la Bible et elle m'avait dit, lis ça et après on en parle. Et le problème, c'est que quand tu connais rien de rien, c'est long, la Bible. L'Ancien Testament, tu vois, c'est énorme, c'est des histoires, c'est quand même mieux quand quelqu'un est là pour t'accompagner. Du coup, j'avançais pas des masses et en fait, très vite après, je suis partie en Espagne, donc j'ai laissé tomber en fait ce que j'avais commencé en France et il m'a fallu... Alors que je te dise pas de bêtises, j'ai dû me faire baptiser en 2010, quelque chose comme ça. Non, je dis des bêtises. J'ai dû me faire baptiser en 2012. Donc voilà, en 2010, j'ai repoussé la porte d'une église en Espagne cette fois-ci. Moi, je suis partie en Espagne en 2005, donc tu vois, je devais avoir 26, un truc comme ça, peut-être. Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, ça m'a pris quand même plusieurs années pour repousser la porte d'une église et refaire la même démarche, mais en Espagne. Et là, c'était bon, c'était le bon moment. Je suis tombée sur un curé justement hyper sympa. Il m'a mis une tutrice qui était exceptionnelle, avec qui je me suis très bien entendue. Et donc, ça a duré 1 an et demi, je crois, où toutes les semaines, j'allais la voir. Donc, j'allais jusqu'à l'église toutes les semaines et on parlait de mes interrogations, des questions existentielles, de la Bible, de tout ça. Et je me suis fait baptiser. J'ai fait le baptême, parce que quand tu es adulte, tu fais baptême, communion et confirmation le même jour. 2012. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis baptisée, j'irai pas en enfer.
J'ai le ticket d'or, comme le Charlie et la chocolaterie.
C'était exactement ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et du coup, ça m'a vraiment calmé un petit peu mes angoisses existentielles. Et puis après, Après ça, donc ça, je devais 2012, ouais, je devais avoir 29 ans. L'année d'après, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. La fameuse, je ne savais pas ce que c'était, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque, j'étais dans ma douche, je m'en souviens, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai appelé, je suis sortie de la douche, j'ai appelé le 112, ici, en France, c'est pareil, non ? J'ai appelé le 112 en catastrophe. Et en fait, ils m'ont dit, madame, vous avez quel âge ? Donc là, je venais d'avoir 30 ans. J'ai 30 ans, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques ? Non, parce qu'en plus, je le savais que j'en avais pas parce que, bref, j'avais déjà fait des examens étant plus jeune, etc. Donc non. Est-ce que vous avez des problèmes de poids, de surpoids ? Non. Ils m'ont dit, bon madame, vous ne faites pas une crise cardiaque, vous faites une crise d'angoisse. Bienvenue dans le monde de la crise d'angoisse. Et là, ça a été la découverte encore d'un autre monde. Et là, en fait, quand tu commences à en parler autour de toi, tu te rends compte que plein de gens connaissent ça, plein de gens ont fait des crises d'angoisse, s'en sont sortis, etc. Alors bien sûr, je conseille de ne pas aller sur les forums, sur Internet, parce qu'alors là, sinon, c'est la catastrophe. Parce que là, je suis tombée sur des gens qui avaient des crises d'angoisse depuis 10 ans et qui ne s'en sortaient pas. Donc là, tu te dis, c'est dur, l'angoisse, pour les gens, moi, je sais qu'il n'y a que les gens qui ont connu ce genre de choses qui peuvent comprendre à quel point c'est dur, en fait. À quel point c'est vraiment une situation spéciale, c'est un truc que tu ne maîtrises pas. Tu me dis d'aller plus doucement.
Calme-toi.
Tu me donnes un micro, tu me donnes un café, c'est vrai, on est parti pour tout.
Ah ouais, là si j'arrive pas à faire... Attends, parce que je veux rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en vérité, tu parles de choses très intéressantes, de différents domaines, mais tu passes d'un domaine à un autre sans que je puisse rebondir dessus, et que je trouve ça hyper intéressant. Donc là, on est en train d'aborder tout ce qui va être hypochondrie, en fait. Donc là, on est sur une pathologie où on a peur, en fait, qu'on va tomber malade, qu'il va se passer quelque chose, que notre santé va être affectée d'une manière ou d'une autre, peu importe le contexte. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment très difficile à gérer au quotidien. Est-ce que tu arrives à t'en sortir sur ça, ou c'est encore difficile, même avec tout ce qui va être loi de l'attraction, Dieu ou pas Dieu, on va en parler aussi tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à t'en sortir de ça?
Alors oui, heureusement, en fait, ça a duré 2 ans, vraiment dur, ou vraiment de 30 à 32, où là, j'ai fait tous les spécialistes possibles, parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir avaler. Donc, pouf, j'allais voir le spécialiste, tu sais, l'otorino machin. Non, non, madame, je vous souviens même, ils m'ont mis une caméra dans la gorge. Non, non, madame, vous n'avez absolument rien, quoi. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, je ne peux pas avaler, il y a un problème et tout. Ils me disaient, non, c'est l'angoisse qui fait ça. Ok. Mais tu vois, c'est pour ça que tu découvres des trucs que tu n'imaginais pas, quoi. Le cœur, pareil, j'avais des palpitations. Ils me faisaient des trucs, ils m'ont tout mis. Ils m'ont fait la preuve de, tu sais, le test d'effort, le Doppler machin pendant 48 heures. J'ai tout fait. Et le monsieur me disait, non madame, vous n'avez absolument rien, tout va bien. Et moi je disais, mais vous êtes sûre, j'ai plein de palpitations. Il m'a dit, non mais c'est normal, c'est l'angoisse. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Pareil, les maux de tête. J'ai fait un scan, j'ai fait un IRM.
Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis en train de découvrir des choses sur Cindy. J'avais remarqué, pour tout vous dire, qu'il y avait à certains moments des petites pointes d'hypochondrie dans le quotidien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est meilleurs amis dans le quotidien. Et donc je le voyais, et même une fois, je vais vous raconter l'histoire de la sortie. C'était un vendredi soir, je crois.
Oui. Oui, vendredi ou samedi soir.
Un vendredi ou un samedi soir, nous sommes allés boire un verre et au bout d'un moment, en fait, il y avait beaucoup de monde dans l'endroit où on était. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et là, elle me dit, Lou, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Donc moi, je me dis, super. Elle me dit, il me faut de l'eau, à me chercher de l'eau. Donc je cherchais de l'eau, on sort de l'endroit. Et là, elle me dit, je vais mourir.
Je me sentais partir.
Je vais mourir, ça y est, c'est la fin, je vais partir, etc.
Il faut dire qu'il était quand même 2h30 du matin, on avait dansé toute la nuit. Moi, j'étais fatiguée. C'est vrai qu'en fait, et je pense avec le recul, ouais, c'est ça, c'est entre la fatigue, tu sais, la soif, parce qu'il faisait vraiment très chaud. En fait, c'était, je pense, une baisse de tension ou un truc comme ça. Et il faut savoir, effectivement, que moi, je me suis déjà évanouie plusieurs fois dans ma vie, donc je connais la sensation. Et là, je savais que j'étais en train de partir. Après, bien sûr, sur le moment, je me dis, ça y est, c'est la fin. Après, avec le recul, je me dis, bon, j'allais peut-être m'évanouir, c'est tout. Mais c'est vrai que ça a mis du temps quand même. Hein. J'ai bien mis une bonne demi-heure avant d'être bien, quoi. Je sentais que, pouf, je montais, oui. Je remontais vers le ciel.
Tu m'as même dit, occupe-toi de mes enfants.
Je me souvenais pas de ça.
Occupe-toi de mes enfants au cas où. Non mais on en rigole, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, tout ce qui va être hypochondrie et tout, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui te permet toi au quotidien de faire face à ça, quoi ? Parce que moi j'ai pas du tout cette problématique par exemple. Qu'est-ce qui te permet en termes de, tu vois, de loi de l'attraction, d'univers, de là-haut en fait, qui te permet de te rassurer ? Est-ce que ça te rassure ou pas du tout ?
Bah, en fait, c'est, moi, c'est ça qui m'a sauvée, hein, clairement. Hein. Quand j'ai... Parce que je te dis, à l'époque, j'étais pas encore éveillée quand j'avais ces crises d'angoisse. Vraiment, quand ça a commencé très, très fort, j'ai passé vraiment 2 ans à faire tous les spécialistes possibles et inimaginables. Et à chaque fois, ils me disaient, non, madame, vous n'avez rien. Alors, c'est bien, tu te fais un bon check-up, du coup. Tu vois que tu n'as rien. Tu te dis, bon, bah, s'ils disent qu'il n'y a rien et que c'est l'angoisse, bah, à un moment donné, c'est que c'est l'angoisse. Et puis, c'est tout. Donc, il faut réussir à gérer le truc. Et en fait, je suis tombée sur un livre. Alors, il est que en espagnol, mais c'était... Francesco, je ne sais plus, il faudra que je vous retrouve le titre. Et en fait, c'était sur un monsieur qui décède et on voit son passage, en fait, si tu veux, dans l'au-delà. Et donc, il a son ange gardien qui vient le voir et qui lui explique maintenant comment ça va se passer, pourquoi il a vécu, comment il peut communiquer avec les gens qui sont encore avec sa famille, qui est encore sur Terre, etc. Enfin, c'était vraiment le passage, si tu veux, après la mort, qu'est-ce qui se passait ? Et ça, ça a commencé déjà à ouvrir la fameuse porte, parce que bon, ok, j'étais baptisée, mais ça, c'était, voilà, c'était la religion chrétienne, tu sais, c'est quand même assez carré, tu vois. Et là, ça ouvrait encore une autre petite porte, autre chose, sur l'au-delà, sur qu'est-ce qui se passe après. Et ça, ça m'a calmée, en fait. Ce livre-là, il m'a calmée. Il m'a permis de me dire, ok, il y a quelque chose de plus grand que toi. Et ça, ça m'a aidé, ça m'a aidé, ça m'a apaisé. Donc, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose de plus grand que toi. La vie, c'est pas seulement métro, boulot, dodo. Il n'y a pas que du matériel, il y a autre chose que tu vois pas, mais qui t'aide, en fait. Et ça, ça m'a calmée pendant vraiment plusieurs années. Et après, à 36 ans, je suis vraiment tombée dans la spiritualité. Et effectivement, ça m'aide au quotidien. Quand je sens qu'il y a un truc comme ça, je me dis, ok, Cindy, de toute façon... Ils sont là-haut, que ce soit les guides, Dieu, l'univers, ton ange gardien. Et confiance, quoi, tu vois. Et confiance.
Et c'est ça, en fait. C'est une question d'accepter de lâcher prise, d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur la situation et de dire qu'il y a plus grand que toi qui va gérer le truc, quoi. C'est que ça. Si tu dois partir, ben, tu dois partir parce que c'est l'heure. Et si tu dois rester, tu dois rester. Et est-ce que tu arrives à, du coup, accepter de pas contrôler. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose lié au contrôle ou pas du tout?
Oui, je pense qu'il y a une part de contrôle. Oui, moi je suis beaucoup, beaucoup dans le contrôle. Donc effectivement, lâcher prise, c'est pas évident. Donc peut-être que ça aide finalement à se dire, bon bah tu sais quoi, là tu maîtrises pas le truc. Donc laisse-toi porter finalement. Ça t'oblige un petit peu à lâcher prise et à te laisser porter par ce qui est plus grand que toi et avoir confiance et te dire, bon bah effectivement, de toute façon si c'est le moment, bah c'est pas grave. Tu vois, j'ai plus peur en fait. Parce que je sais que ça continue après. Maintenant j'ai cette certitude-là. J'ai acquis cette certitude-là que ça continue après. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de partir avant. J'ai envie que ça continue. Le plus longtemps possible. Donc du coup, c'est vrai que quand il m'arrive un truc comme ça, je me dis, ah, j'ai pas envie de partir maintenant quand même, tu vois. Donc je me dis, bon, je leur fais confiance, je vais pas partir tout de suite, j'ai encore plein de choses à faire dans cette incarnation. Et en général, ça me calme.
Est-ce qu'il y a un événement précis qui t'a permis de te dire... Je sens qu'il y a quelque chose là-haut. Tu vois, au-delà des livres que tu as lus, au-delà de tout ça, ou par exemple de ce que t'as dit le curé, est-ce qu'il y a un événement, tu sais, émotionnel où tu t'es dit, oh, là, c'est bizarre? Ou par exemple, tu as vécu une EMI ou quelque chose comme ça qui a fait que tu te dis...
Ouais, t'as la certitude.
Tu as la certitude, ouais.
Non, en vérité, ça a été plein de petites choses, mais je pourrais même pas te dire, en fait, je me souviens, par exemple, une fois où, en fait... Ici, à Alicante, pas très très loin, on a une petite colline, alors que je te dise pas de bêtises, et c'est Saint-Pascal, je vais le dire en espagnol, Saint-Pascual Bailón, il s'appelle, c'est un saint, en fait, c'était un berger qui a vécu donc, il y a des centaines d'années par ici, et en fait, il y a une c'est même pas une légende, hein, on dit qu'il arrive en retard à la messe, et du coup, les anges sont descendus du ciel pour lui apporter l'hostie, on dit l'hostie non, en français.
C'est ça, ouais.
Et bref, il y a toute une histoire autour de Saint-Pascual, et donc on a son ermite, en fait, qui est là, pas très très loin. Et c'est un lieu de pèlerinage. Les gens vont régulièrement, une fois par an, je crois que c'est le 16 mai, si je ne me trompe pas. Tu vois, j'ai encore en tête. Le 16 mai, les gens vont à pied jusqu'à l'ermite pour... c'était son ancienne grotte, là où il dormait quand il était berger, en fait. Parce qu'il était berger, donc il gardait des moutons.
Mais c'est où, ça?
Mais c'est à Orito. Bah, c'est pas très loin. Hein. Moi, à l'époque, j'habitais juste à côté. J'étais à 4-5 km. Et c'est à 10 km d'Alicante, quoi. Et en fait, c'est une colline, donc tu y vas soit à pied, soit en voiture. Et quand tu rentres, donc maintenant, c'est une grotte où ils ont construit une espèce de petite maison et tout. Et donc, il y a une statue de Sainte Pasquale. Il y a plein de fleurs et tout. Et c'est un tout petit truc. Et en fait, la dame qui m'avait fait le catéchisme, donc celle qui m'avait appris un peu la religion chrétienne, etc., elle m'avait dit, tu devrais y aller, c'est vachement joli, etc. J'y étais jamais allée. Pourtant, ça faisait des années que je vivais à 3 km du truc. À l'époque, ma fille était toute petite. Elle avait même pas 2 ans. Et j'y suis allée avec elle. Je me suis dit, oh, je vais aller voir et tout. Je suis partie avec elle. On est rentré en fait dans la petite maison, dans la grotte. Et en fait, c'est assez dur à expliquer, mais si tu veux, juste devant la statue, il y a plein de fleurs et c'est vraiment tout petit et étroit. Il y a des bancs sur le côté, tu vois, pour que les gens puissent s'asseoir. Et c'est vraiment tout petit, hein. Je te parle de 5-6 mètres carrés, quoi, pas plus. Et en fait, ma fille, alors elle, pour le coup, je ne lui avais pas encore appris, parce que 2 ans, c'est petit, hein, pour les gens qui ont des enfants. Ils savent que 2 ans, t'as pas encore, tu raisonnes pas, tu vois, tu voilà, c'est vraiment des bébés, quoi. Et ben en fait, elle s'est agenouillée. J'ai encore l'image parce que je me suis dit, là, je suis en train de vivre un truc. Elle s'est agenouillée, alors que je lui avais jamais appris à prier ni rien du tout. Elle s'est agenouillée, mais en fait, agenouillée, genre un genou par terre et l'autre, tu sais, comme les chevaliers, quoi, un petit peu. Elle a joint ses mains. Je ne lui avais jamais appris à prier. Il n'y avait personne qui était en train de prier autour. Il y avait 2-3 personnes assises sur les bancs. Et en fait, je me disais, ça, c'est un truc pour moi, tu vois, parce que les gens qui étaient autour, ils ne pouvaient pas savoir que c'était exceptionnel, parce qu'ils ne connaissaient pas ma fille, donc ils pouvaient peut-être croire que ma fille, je lui avais appris à prier, que c'était normal, tu vois. Alors, et moi, j'étais en train d'halluciner, j'étais en train de la regarder. Et en fait, elle regardait fixement quelque chose dans les fleurs. Donc, elle regardait en direction de la statue et elle regardait comme ça les fleurs. Elle s'est mise comme ça à genoux, elle a joint les mains et elle est restée comme ça au moins 30 secondes, quoi. Genre, en train de fixer un point dans les fleurs. Et moi, je la regardais. Et je sais qu'on subconscient à ce moment-là, tu vois, il a enregistré l'information parce que j'étais en train de me dire, ok, je suis en train de vivre un truc de ouf, faut vraiment que ça reste gravé dans ma mémoire, ça, parce que c'est, on vit pas ça tous les jours. Et après, elle a arrêté, et je me souviens de lui avoir dit, qu'est-ce que t'as vu ou qu'est-ce qui s'est passé, et elle a pas su me dire en fait, tu vois, elle m'a pas expliqué, elle a rien dit en fait. Et donc j'en avais parlé avec la dame qui m'avait fait le catéchisme, elle m'a dit, tu sais, c'est probable qu'elle ait vu la Vierge Marie ou un saint ou un ange, enfin les enfants ils voient tout quoi, donc. Elle a probablement vu quelque chose et puis elle a eu son moment de grâce, quoi. Et ça, tu vois, c'est un événement que tu te dis quand même, tu vois, mais c'est personnel. Il n'y a que toi, quand tu l'as vécu, qui peut savoir à quel point c'est exceptionnel, tu vois.
Mais en plus, moi qui connais ta fille, je peux te dire que c'est pas vraiment son genre de comportement.
D'accord.
Mais il est possible que, par exemple, dans une autre vie, parce que moi je crois beaucoup aux vies antérieures, qu'elle ait été trop croyante et qu'en fait ça soit ancré un peu. Hein. Si elle l'a jamais appris à faire ça, surtout que c'est un type de révérence particulière, non, il me semble.
Ah bah,
faudrait aller
plus,
rechercher.
Vraiment, ouais. C'était, et tu vois, c'est ce genre de choses, je le note effectivement dans un calepin. J'étais rentrée chez moi, j'avais noté parce que je savais que c'était important et je savais qu'il fallait que je m'en souvienne, tu vois. Donc c'est le genre de choses comme ça. J'ai pas eu moi des grands trucs, j'ai pas eu des claques qui portent toutes seules, j'ai pas vu des fantômes, j'ai pas eu, parce qu'on m'en a raconté hein, des histoires, tu sais, un dîner comme ça, plein d'amis autour de la table, chacun a sa petite histoire à raconter. Moi j'ai pas d'énormes trucs à raconter, mais plein de petites choses qui font que j'ai eu des rêves parfois tellement, tellement, tellement forts que je sais que c'était pas seulement des rêves, tu vois, mais encore une fois, c'est totalement personnel. C'est pour ça, hein, on ne peut jamais convaincre quelqu'un que ça existe, il faut vraiment le vivre soi-même. C'est un truc qui se vit de l'intérieur, en fait. Cette certitude-là, tu l'acquiers au fur et à mesure des expériences, quoi.
Et ça, c'était pour l'anecdote de Sainte Pasquale.
Exactement, ouais.
Ok. J'avais une autre question à te poser, parce que je sais qu'à certains moments, tu fais des rêves qui sont quand même assez intenses. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas du tout? Parce que, effectivement, des fois, il se peut que tu ressentes des choses, surtout à travers les rêves. Moi, pour te côtoyer, c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les rêves.
Alors, j'en ai fait un. Alors, j'en fais un à peu près, ouais, 2-3 par an, des très, très forts où vraiment, tu sais que t'es pas dans un rêve. Tu vois, tu vis le truc vraiment tellement fort, tu te réveilles, t'es encore dedans, etc. Donc, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plein où j'ai rêvé de mon grand-père. Mais un qui m'avait aussi pas mal marqué, c'était justement l'époque où je venais de me faire baptiser, en fait. Et un jour, j'ai rêvé. Alors, j'avais eu une grande conversation. Ça arrive souvent quand j'ai des grandes conversations spirituelles la veille. C'est-à-dire, j'ai une grande conversation et je me souviens avoir parlé la veille avec le curé, parce qu'il était super sympa et donc on parlait, machin, etc. Et donc, on avait eu une grande conversation sur la vie, la mort, Jésus, etc. Et le soir même, en fait, cette nuit-là, alors, j'ai rêvé donc, que j'étais dans la maison où j'habitais à l'époque. Et en fait, j'allais dans ma salle de bain. Ça me fait peur de me dire penser. Et en fait, au moment où j'arrivais dans la salle de bain, j'entendais, je sentais qu'il y avait quelqu'un caché, tu sais, dans la baignoire, derrière le rideau.
Tu vois, le truc qui fait peur, quoi.
Et j'étais incroyable. En mode, oh non, ça va être un cauchemar et tout. Tu sais, le truc que tu vis, en même temps, tu sais que c'est un cauchemar, en même temps, tu peux pas en sortir. Donc, j'avais tiré le rideau comme ça, je m'en souviens encore, c'était un rideau beige, j'avais tiré le rideau comme ça. Et en fait, derrière, il y avait une petite fille qui... Ouais, et alors, petite fille, voilà, les cheveux à peu près là, lisse, brune. Pareil, hein, ça, je l'avais noté. Alors, tu m'aurais dit qu'on allait parler de ça, j'aurais révisé un petit peu comment ça s'était passé, mais je te dis quand même les grandes lignes. Et donc, la petite fille, elle me parlait en anglais. Ça, c'était vraiment le truc. Elle me parlait en anglais et elle me disait « J'ai besoin d'aide, je suis coincée, je viens de mourir et j'ai besoin d'aide pour monter là-haut. » Et non, le truc...
À l'époque, en fait, on se connaissait pas du tout déjà une. Alors moi, je suis hyper surprise de cette interview, je vous le dis honnêtement, parce qu'elle ne fait que me parler de Jésus, alors qu'il faut savoir que Cindy, dans la vie de tous les jours, tu ne parles jamais de Jésus, tu parles juste de l'univers, mm-hmm. Tu parles pas de Dieu, tu parles de l'univers, c'est plutôt moi qui ai tendance à parler de Dieu et de Jésus. Mais là, c'est drôle parce que les rôles s'inversent complètement déjà, et que tu viens de m'avouer que tu as fait un rêve où il y a un défunt, enfin, ou en tout cas dans ton rêve, on ne sait pas si c'est vraiment la réalité ou pas, il y a quelqu'un qui t'a demandé de l'aide pour monter là-haut et qui t'a dit « je suis coincée, j'ai besoin d'aide ». Donc là, j'ai l'image de la petite dans la baignoire qui dit « I need help, I'm stuck here ».
Je ne sais plus, tu vois, les mots exacts, je ne sais plus, je sais que je l'avais noté. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais en anglais en plus, tu sais le truc, tu te dis « mais pourquoi quoi ?» Mais en fait, parce que c'est un cheminement tout ça. Donc effectivement, je suis rentrée dans la spiritualité par Jésus, par la religion chrétienne, clairement, tu vois. Parce que je me suis fait baptiser, etc. Et je ne renie pas du tout. Moi, pour moi, c'est vraiment un cheminement. Et d'ailleurs, je crois profondément que Jésus existe, que la Vierge Marie aussi, que Dieu existe. J'arriverai pas à te dire exactement comment ça fonctionne, mais clairement, pour moi, en fait, toutes ces choses-là existent. Allah, tous les dieux indiens, tout ce que tu veux, en fait, finalement, ça reste des énergies, des égrégores. Je sais pas comment c'est fait de l'autre côté. Tu vois, moi, pour le coup, j'ai jamais fait d'expérience de mort imminente ou ce genre de choses. Je m'en souviens pas, j'ai pas de souvenirs, rien du tout. Donc, je sais pas comment c'est fait. Mais par contre, je suis persuadée que tous ces gens-là existent, toutes ces énergies-là existent, et qu'en plus, ils peuvent nous aider. Donc, je renie rien du tout. Au contraire, je suis très contente de m'être fait baptiser. Pour moi, c'est pas incompatible avec le fait de croire aussi en l'univers.
Oui, parce que totalement.
L'univers contient tout le reste, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, complètement, complètement. Mais, oui, c'est vrai qu'au quotidien, tu parles beaucoup plus d'univers et de choses comme ça. Je pense que ça a été la première étape, en fait, qui t'a amené à la loi de l'attraction aussi. Puisqu'il y a beaucoup d'univers dedans et on dit souvent qu'il y a une sorte d'intelligence infinie.
C'est ça.
Une intelligence infinie, je crois que c'est le terme, non, oui. Qu'on désigne dans la loi de l'attraction, qui peut s'apparenter à Dieu ou des choses comme ça en fonction de nos croyances. Ok.
Tu sais que je finis l'anecdote, parce que maintenant, oui. Maintenant qu'on y est... Alors donc, je me réveille là-dessus, parce que donc la petite fille me dit qu'elle a besoin d'aide, etc. Je me réveille, il était 4 ou 5 heures du matin, je dis « maintenant je fais quoi ?» Et donc, j'ai attendu 8 heures du matin, j'ai appelé la dame qui me faisait le catéchisme, je lui ai raconté, elle m'a dit « ok, pas de problème, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais faire... » Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, il y a un truc express, tu sais, tu fais une prière, un truc, je ne sais plus si c'est une neuvaine, ou il faut faire, il faut assister à la messe. Je sais plus comment c'est, mais tu vois, il y a un truc spécial. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais le faire. Et du coup, le soir, elle m'avait dit, ça y est, c'est bon, c'est fait, t'inquiète pas. Elle a dû partir de l'autre côté, etc. Donc, j'avais un peu servi d'intermédiaire entre la petite fille qui parlait anglais, la dame qui parlait pas anglais, hein, qui avait parlé que espagnol. Je pense que j'avais servi un petit peu d'intermédiaire entre les deux.
Incroyable, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. En tout cas, dans la médiumnité, quand je remarque à force d'avoir eu des contacts avec des défunts, on remarque beaucoup qu'il y en a qui, bon, il y en a qui font le choix de rester ici, il y en a qui montent directement, il y en a qui montent au plan 1, plan 2, il y a différents plans d'élévation là-haut, en tout cas c'est comme moi je le perçois et je le vois. Et effectivement, il y en a qui sont coincés, parce qu'ils n'ont pas compris, parce que la mort a pu être choquante, ou parce qu'ils se disent « mais je suis jeune, pourquoi je suis là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours là, je suis toujours dans les vivants. » Donc c'est très compliqué de le comprendre et de pouvoir passer à là-haut aussi. Hein. C'est ça qui est vraiment compliqué. Donc ok, hyper, hyper intéressant, mais hyper...
Comment tu découvres des trucs aujourd'hui ?
Ouais, je découvre grave des trucs sur toi. Donc, il y a une question que je voulais savoir, qui m'intéresse pas mal, c'est à ce jour, en fait, quel est le plus grand défi que tu as relevé vis-à-vis de la loi de l'attraction ? Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je sais que ça peut être personnel et ça peut être intense. Et comment tu le vois vis-à-vis de la loi de l'attraction ? Parce que c'est vrai que, pour être honnête, on en parle souvent dans nos podcasts WhatsApp. On se parle souvent de nos défis qu'on a à gravir, à soulever la montagne, etc. Est-ce que tu peux bien nous partager un de tes défis que tu as relevé et que tu es toujours en train de réfléchir par rapport à la loi de l'attraction et par rapport à ton métier aussi?
Alors, concrètement, donc, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, donc, je me suis mise vraiment à l'étudier en plus de tout le reste, hein, en plus d'effectivement, parce que la spiritualité, c'est quand même très vaste, donc il y a plein de domaines. Mm-hmm. Mais c'est vrai que la loi de l'attraction, c'était vraiment le sujet qui me passionnait le plus et j'arrivais pas à la mettre en pratique. Il y avait toujours un truc qui coinçait. Alors, des fois, je la mettais en pratique sans le savoir. Tu sais, il t'arrive un truc. Et après, a posteriori, tu te dis, ah, mais oui, effectivement, j'avais fait ça, ça, ça et ça. C'était jackpot, c'était la formule magique. Mais quand tu le sais pas, bah, tu fais un petit peu au pif, tu fais des tests, ça marche pas, etc. Et du coup, j'ai eu plein de résultats au cours de ma vie avec la loi de l'attraction. Donc, j'en parle dans ma masterclass où je dis vraiment tous les grands trucs que j'ai pu avoir, même si au quotidien, j'en ai plein, en fait. Mais les grands trucs les grandes expériences qui se sont passées, j'en parle dans la masterclass, et il y en a eu plein. Il y a eu au domaine professionnel, quand je suis partie justement de la multinationale, alors que c'était vraiment le truc qui semblait impossible, ou bien au niveau personnel, quand je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique et qu'il a fallu partir, ça a été toute une odyssée, franchement, ça a été compliqué, quoi. Et dernièrement, ça a été au niveau professionnel, donc quand j'ai voulu me reconvertir, justement, je savais pas trop comment j'allais faire pour m'en sortir. Mais j'ai utilisé la loi de l'attraction, je savais ce qu'il fallait faire, donc j'ai tout mis en place pour y arriver. Et tu le sais, hein, le compte Instagram qui a explosé en une semaine, je suis passée de 4900 abonnés à 10 000, et puis la semaine d'après à 20 000, et puis le mois d'après à 30 000, et puis en moins de 6 mois, je suis arrivée à plus de 40 000. Donc ça, c'est vraiment le truc, ça pour moi, c'est le saut quantique. Parce que franchement, j'avais mis 18 mois à arriver à 4900 abonnés quand même, et en moins de 6 mois, j'arrive à 40 000. Donc ça, c'est un saut quantique. C'est quand ta réalité change en fait en très peu de temps. Mais ça, il n'y a que l'univers effectivement qui peut t'aider à faire ça. Là, effectivement, je te dis, c'est l'univers parce que c'est vraiment, c'est au niveau énergétique que ça se passe. Il y a un truc qui fait que ça compresse le temps. Ça te donne un résultat que tu aurais mis beaucoup plus de temps à avoir. Donc clairement, pour moi, ma plus grande réussite consciente avec la loi de l'attraction, c'est au niveau professionnel quand je dis... Ok, je veux vraiment vivre de ça, donc je passe en auto-entrepreneur, parce que tu sais, il ne faut pas qu'il y ait des contradictions en fait, parce que sinon l'univers ne peut pas t'apporter ce que tu souhaites. Donc je passe en auto-entrepreneur, je mets tous mes œufs dans le même panier, donc je me focus vraiment que là-dessus, sur ce projet-là à fond. Et quand tu fais tout, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, quand tu fais tout pour y arriver, et ben l'univers en fait de son côté, il fait la même chose, et c'est là où tu as des résultats exponentiels. Tu vois, certaines personnes me disent « Oui, mais finalement, si tu fais ça, tu vas forcément avoir des résultats. » Et je suis d'accord, hein, parce que tu vois, moi toute seule, en 18 mois, j'avais réussi à avoir 4900 abonnés. Mais entre moi toute seule, 4900 abonnés en 18 mois, et moi plus l'univers, 40 000 abonnés en 6 mois, tu vois, la magie, en fait, c'est tellement exponentiel, l'univers est multiplié par 100 ou 1000 ou 10 000, en fait, le résultat. C'est ça, le truc. C'est quand tu allies les deux, le plan matériel et le plan énergétique, c'est là où il se passe un petit peu la magie, quoi.
Donc, clairement, on pourrait dire que tu crois en la magie.
Totalement.
Et comment tu fais pour la provoquer dans ta vie ?
Bah, c'est un lifestyle, la magie. C'est beaucoup de gratitude. Le matin, je me lève, je suis dans la gratitude. Merci infiniment de m'être réveillée. Merci infiniment parce que j'adore ma maison. Merci infiniment. Merci, mais alors des merci, en veux-tu, en voilà. Pour tout. Mais parce que je me dis, waouh, mais en fait, j'ai tellement de chance d'être en vie, quoi. J'ai tellement de chance d'être là, j'ai tellement de chance de vivre de ma passion. Je trouve ça tellement extraordinaire, en fait, que la gratitude, ça fait vraiment partie de ma vie. Et je te dis le matin, mais parce que c'est la première chose que je fais en me réveillant, c'est la dernière chose que je fais en me couchant. Je le fais plein de fois dans la journée, c'est pour ça que c'est un lifestyle. Et après, tout simplement, mettre en place tout ce que j'enseigne aux gens, hein, donc avoir les idées claires, savoir où je vais, en termes d'objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre. Et après, faire des actions qui vont en direction de cet objectif, faire des mantras, des petits rituels quand il y a un portail énergétique. Aujourd'hui, on a un beau portail énergétique.
Aujourd'hui ?
Ouais. Aujourd'hui, on est à fond, là.
Ah oui, on filme le podcast aujourd'hui, oui, incroyable.
Oui. Et moi, j'ai sorti ma masterclass aujourd'hui, quoi, même pas peur.
À minuit.
Et même si on est en Mercure rétrograde, on est à la totale, mais c'est pas grave.
Mais t'as vu, pour tout vous dire, j'ai dû vite aller acheter un truc parce qu'on avait un problème de fil, en fait. Clairement, on avait un problème d'USB, donc j'ai dû vite aller acheter quelque chose pour commencer ce podcast parce qu'effectivement, on est clairement en Mercure rétrograde.
Clairement.
D'ailleurs, moi, j'ai une question. D'accord.
T'as beaucoup de questions.
J'ai beaucoup de questions.
Mais c'est le principe, en fait.
C'est le principe, ouais. Je vais te parler de mon expérience. Moi, des fois, le matin, comme tu peux le constater souvent, je me réveille de très mauvaise humeur.
Si elle n'a pas son café, on n'est pas bon.
Non, mais c'est vrai. Et pourtant, moi, je connais parfaitement la loi de l'attraction. C'est pour ça que, en fait, d'ailleurs, pour tous ceux qui vont regarder le podcast, on sait que c'est super dur à appliquer. C'est vraiment quelque chose de difficile à appliquer dès le matin, tu vois. Parce qu'il peut y arriver telle ou telle chose. Moi, par exemple, je suis en plein déménagement, le chien est malade, etc., etc. Et pourtant, et toi aussi, t'en as pas mal des aléas de la vie, et pourtant, j'arrive pas le matin à me mettre dans une bonne énergie. Qu'est-ce que tu conseillerais à l'auditeur qui n'arrive pas à se mettre dans une bonne énergie? Qu'est-ce qui lui permettrait, en fait, de changer ça, de switcher, en fait, pour faire place à la magie dans sa vie?
Bah, de toute façon, on va utiliser la loi de la relativité. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Le matin, en se réveillant, c'est se dire, c'est penser en fait aux autres, penser à quelqu'un qui est dans une autre situation, qui n'est pas du tout dans celle que l'on a, et se dire justement, waouh, mais en fait j'ai tellement de chance d'avoir un appartement, d'avoir... Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, hein, c'est normal, on n'a jamais un 100% de réussite dans tous les domaines, mais au moins chercher, ça c'est un exercice que je fais aussi avec mes enfants, chercher au moins 5 choses pour lesquelles vous pouvez être dans la gratitude. Et des fois, quand on a une journée pourrie ou quand on a eu une semaine pourrie, c'est dur de trouver les 5 choses. Tu te dis, ouais, en fait, c'est quoi là en ce moment? Là, j'en ai tellement marre que j'ai pas envie de dire merci. Oui, mais en fait, si tu t'obliges, si tu te forces, au tout début, tu vas te forcer, c'est clair. Et tu vas même pas le ressentir. Tu vas dire merci, mais en fait, tu vas t'énerver. Mais c'est pas grave. Parce que le fait de le dire, en fait, déjà, ça matérialise quelque chose. Tu vois, ça donne une intention. Tu marques l'intention d'être dans la gratitude, même si c'est difficile. Donc, trouve 5 choses. Tu peux commencer par 3 la première semaine et tu verras que la deuxième semaine, tu seras déjà à 5 très facilement. 3 choses pour lesquelles tu peux être dans la gratitude dès le matin. Okay, tu te réveilles. En plus, quand on se réveille, on a quand même 15 minutes où on est en mode alpha. Tu sais, les ondes, elles sont en mode alpha. Donc, on est connecté à l'univers. C'est vraiment le meilleur moment pour envoyer ses demandes et pour dire merci, etc. 3 choses le matin pour commencer pour lesquelles tu peux dire merci. Et ça peut être merci parce que j'ai bien dormi. Si tu as mal dormi, ça peut être merci parce que j'ai une maison que j'aime beaucoup. Si t'es pas dans un endroit que t'aimes, merci pour l'air que je respire. Tu vois, tu vas toujours trouver un truc normalement pour lequel tu peux dire merci. 3, franchement, c'est facile. Parce que on n'a pas non plus des vies si catastrophiques que ça. Donc, à un moment donné, soit au niveau financier, soit au niveau de la santé, soit au niveau de l'amitié, soit au niveau. Tu trouves au moins 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci, quoi.
Bien sûr, il faut dire merci avec sincérité. Yac.
Au tout début, ça peut être compliqué. Moi, je te dis, hein, il y a des fois, moi, je le fais le soir avec mes enfants. Tu sais, je leur apprends justement, je leur dis toujours, dis-moi les 5 choses pour lesquelles tu peux dire merci ce soir, pour lesquelles tu ressens la gratitude au cours de ta journée. Et quand tu as eu une journée pourrie, quand tu as eu une journée où tout s'est mal passé, je sais pas, il y a eu que des problèmes, etc., tu n'as même pas envie, en fait. Tu sens que tu n'as pas envie et tu te forces. Et donc, moi, ça m'arrive de dire, bon, bah merci, parce que je fais l'exercice avec eux. Merci pour, tu sais, tu sens bien que t'es chaud, tu vois, merci pour l'appartement, merci parce que j'ai à manger, tu vois. Après, t'arrives à des trucs basiques, en fait. Mais tu te rends compte que même dans le basique, il y a de quoi dire merci. Parce que si tu regardes ton appartement, tu peux être sûr qu'il y a énormément de gens qui ont un appartement bien pire que le tien. Si tu regardes ce que t'as mangé, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes ta santé, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui sont en cancer stade 4. À un moment donné, la loi de la relativité... Ça aide vraiment à se dire, en fait, je suis pas si mal, quoi. Et tu vas voir qu'au troisième merci, tu te dis déjà, bon, en fait, tu sais quoi, ça va, quoi. Au niveau de la santé, ça va. Au niveau de je sais pas moi, financier, ça va. Ou au niveau pro, ça va. Et puis, tu vas dire 3 merci. Et puis, au quatrième, tu te lances. Et puis, au cinquième, tu te dis, ouais, en fait, ça va. Tu vois, en fait, tu switches. Ça t'aide à switcher.
Moi, il y a une astuce que j'aime bien. Tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, la première, j'en ai 2 d'astuces. La première, c'est effectivement de remercier ce en quoi on croit. Donc, si c'est l'univers, c'est l'univers. Mais il faut vraiment que ce soit une croyance, une foi limite absolue. Si c'est en Dieu, c'est Dieu. Si c'est en Allah, c'est Allah. Merci Allah pour ça. Merci Allah pour ci. Merci Dieu pour ci. Donc, déjà, ça, c'est la première astuce qui, moi, fonctionne parce que ça m'aide à avoir plus de sincérité. Mmh. Et après, il y a quelque chose aussi qui fonctionne très bien, c'est regarder la nature. Mmh. Alors, que ce soit, tu vois, des fois en documentaire ou simplement regarder la nature tranquillement, je trouve que la nature, elle est tellement grande, tellement vaste, on est tellement petit par rapport à l'univers. Il suffit simplement que je regarde les collines ou quoi, je me dis waouh, waouh. Et là, ça switch un peu, tu vois.
Ok. Mais de toute façon, tout ce qui nous sert au quotidien pour élever nos énergies, ça nous aide aussi quand on n'est pas bien, en fait. Quand on a des doutes, quand on se lève énervé ou quoi que ce soit. Ou par exemple, la dernière fois où je sentais que j'étais pas bien et tout, je me suis dit, je vais regarder un épisode d'un truc drôle, en fait. Et direct, oui. ça fait switcher, en fait. Ça, tu t'obliges à switcher, consciemment.
Toi, c'est ce qui fonctionne ouais. très bien. Tu regardes souvent des émissions drôles,
ouais.
notamment LOL.
Ouais.
Effectivement, ça marche super bien de switcher. Et alors, j'avais vu un documentaire, justement, je sais plus si c'était Le Secret, mais ça doit être autre chose, parce que c'était un peu plus poussé que Le Secret. Et elle disait qu'elle avait arrêté, en fait, de regarder BFM TV, TF1, pour ceux qui sont en France. Ici, je sais même pas comment ça s'appelle, les chaînes.
Oh bah,
comme ça.
C'est encore pire.
C'est pire. ouais. Et elle avait arrêté de regarder ça, et en fait, elle regardait que des choses drôles. Et c'est pour ça que, moi, je t'avoue que des fois... Moi qui suis fan de... J'adore les séries où il y a des fantômes, où ils vont parler des fantômes, où ils vont parler de ça. J'adore. Mais alors, je trouve ça passionnant parce que c'est... Je cherche à comprendre comment le scénariste, du coup, lui voit la chose. Parce que moi, je la vois dans certains prismes, vu que c'est mon métier. J'y crois très fortement. Et il y a très peu de scénaristes qui, pour moi, respectent ce qui se passe vraiment. Et par exemple, je suis complètement fan de... J'en parle souvent d'ailleurs de... La maison, c'est quoi ? The Haunting of Hill House, c'est la maison hantée Hill House, je pense.
Que je ne regarderai pas.
Que je ne regarderai pas. Ça fait peur, mais l'histoire qui est partagée des esprits à l'intérieur de cette maison sont véridiques. Des fois, tu vois, il y en a qui sont... C'est comme
je
nous, en fait.
Je regarderai encore moins si c'est véridique.
Non, mais c'est comme nous. Des fois, on peut avoir des choses qui nous choquent, des traumas. Et ben, dans la mort, ils ne s'enlèvent pas, en fait. Dans la mort, on est effectivement libéré sur le plan physique, et puis on tend à être libéré au niveau mental, mais il y en a qui restent coincés parce qu'ils ont vécu un choc lié à leur mort, que c'est difficile, etc. Et je trouvais que le réalisateur en parlait super bien, et aussi vis-à-vis de la temporalité, c'était passionnant, parce que le réalisateur dit qu'il n'y a pas forcément de temporalité, et je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, dans la loi de l'attraction, il n'y a pas de temporalité.
Non.
C'est ça,
l'espace-temps, non ? C'est vraiment que sur ce plan-là, quoi, sur le plan matériel, la 3D, comme je dis. Dès que tu sors de là, il n'y a plus d'espace-temps, quoi. Tout existe déjà, tout est déjà créé, tout est déjà... Voilà, il n'y a pas d'espace-temps.
J'en parlais d'ailleurs avec une médium et je lui disais que moi, personnellement, quand les gens me disent « Oui, est-ce que je vais tomber enceinte le mardi 15 ou le mardi 16 ?» ou le mercredi 16, j'ai un peu du mal, quoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de temporalité. La montre, c'est nous qui l'avons inventée. D'ailleurs, il y a plein de moments où on remarque qu'il y a une relativité de l'espace et du temps au niveau scientifique.
Merci.
Donc,
Einstein.
Oui, ben, il y a quand même des changements, quoi, la temporalité. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai du mal avec la temporalité, tu vois. Parce que pour moi, quand on me demande quand est-ce que ça va m'arriver, je peux dater à peu près, tu vois. Je peux avoir des saisons, je peux avoir... je peux travailler sur la sensation, la chaleur, la fraîcheur quand ça arrive. Mais effectivement, il n'y a vraiment pas de temporalité. Je vous annonce que j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu sur un dialogue, mais j'ai perdu ce que je voulais dire.
Non, mais parce qu'on parlait du fait de se mettre des choses négatives dans la tête, en fait. Tu vois, par exemple, pour toi, c'est génial de regarder The House of Hunting.
Exactement. Revenons à
mais moi, si je fais ça, moi, je ne dors pas de la nuit. Enfin, tu vois. Alors, je comprends le concept parce que je sais que si je regarde, ça va être super intéressant. Je vais adorer. Mais le problème, c'est qu'une fois la nuit tombée, moi, ça travaille trop, en fait. Donc, en fait, c'est toujours cette histoire de connais-toi toi-même, connais tes limites et en fonction de ça, bah, gère-toi, quoi. Gère la situation.
Mais complètement, mais pour moi aussi, hein. The Haunting of Hill House, ça fait peur, etc. Mais moi, ça m'intéresse. Je pourrais passer 4 heures. Enfin, j'adore même, tu vois, les crimes... je te parlais souvent de ça, donc les documentaires qui vont être liés au crime. J'adore mettre sur pause, noter ce que moi je ressens, ce que moi je vois, et ensuite découvrir ensuite ce qui s'est passé. Ça, j'adore faire ça, mais je peux... Enfin, au quotidien, pour arriver à mes objectifs, c'est une tare, tu vois.
Ouais.
Parce que ça me met dans des énergies...
Ouais.
En fait, c'est génial parce que je n'ai plus de temporalité. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
J'ai plus de temporalité, je suis complètement dans un truc... hyper intense et c'est trop trop bien, mais après ça me tire un peu vers le bas, donc je peux plus le faire. Donc c'est vrai que je privilégie les choses comme LOL.
On peut raconter si tu veux l'anecdote, hein, de la voiture.
Oh,
bah, il y a pas très longtemps en plus, quand tu m'as mis des podcasts, alors là on a frôlé vraiment la crise d'angoisse en direct, je peux vous le dire.
On a frôlé la crise d'angoisse,
mais parce que tu l'as dit, hein, je suis hyper sensible, enfin je suis très pas hyper sensible, je pense pas que je sois hyper sensible, mais je suis sensible quand même, hein, on va pas se mentir.
Bon, on va en parler très clairement. En fait, on est allé dans un parc d'attractions qui s'appelle Port Aventure en Espagne, ensemble avec ses deux enfants. Et il se trouve que moi, je trouvais ça complètement fou, quoi. J'ai eu vraiment un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens montent dans des attractions comme ça. Il y a des chutes de 70 mètres. Je me dis, ils sont inconscients, quoi, en termes de sécurité et tout. Je me suis vraiment questionner profondément sur le fait qu'un humain puisse aller dans une attraction si intense et
Et en ressortir vivant.
en ressortir vivant déjà d'une part, mais en plus qu'ils veulent y aller, qu'ils veulent avoir des sensations d'adrénaline. Voilà, moi des fois j'aime bien le calme dans ma vie, quoi. Et donc, mais en même temps je trouvais ça très très sympathique parce que moi je suis habituée au parc Disney, mais ce n'est pas du tout la même chose, c'est dans un autre univers. Qui est lié à Disney et Port Aventura, ils ont vraiment des attractions qui sont quand même assez intenses. Et donc, bon, il y a eu tout un truc. Moi, j'ai pas fait toutes les attractions, je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Et elle, hypochondriaque, hypersensible, elle m'a fait toutes les attractions du monde. Et même, elle y est retournée. Alors, moi, j'étais complètement choquée. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, je me suis prise une sorte de passion parce qu'en fait, quand je comprends pas quelque chose, je vais y aller à fond. Donc là, j'ai pas compris, je me dis, mais c'est pas possible au niveau de la sécurité, il y a déjà dû avoir des accidents, etc. Donc je lui ai mis un podcast en fait sur quelqu'un qui fait des analyses d'accidents dans le monde,
Sur le chemin du retour.
sur le chemin du retour, pas sur
On
le
est,
chemin de l'aller, hein.
on était, ouais, j'avoue,
J'ai été
merci.
sympa.
Merci. Mais alors, on avait quand même 2 jours intenses dans les pattes. Hein, en termes de fatigue, je pense qu'on était bien. On n'avait pas non plus super bien dormi. Quand t'es pas chez toi, tu dors pas forcément bien. On avait toute la journée à PortAventura avec toutes les émotions, etc. On avait 4 heures et demie de voiture devant nous. Et elle me met donc un podcast sur les accidents des attractions, etc. Le problème, c'est que moi, j'ai une imagination qui marche très très bien. Donc en fait, en même temps que je conduisais, j'entendais ce qui se passait. Je le voyais pas, bien évidemment. Mais alors, c'était comme si je voyais le film, en fait, un petit peu en fond d'écran, tu vois. Et c'était des trucs quand même.
C'était des bon bah c'est des accidents qui sont arrivés. Le podcast expliquait le pourquoi du comment, donc c'était super intéressant au niveau ingénierie, tout ça, de pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas été fait, etc. Bon, il faut savoir que je vous rassure, c'est très sécuritaire, n'empêche les attractions, plus que quand vous prenez la route, pour vous dire. Donc en fait, le fait de se mettre dans ce mood-là, de se mettre dans un mood où en fait il y a eu des accidents, qu'on essaie de comprendre, que des fois à certains moments il y a eu des morts, des
Je
choses
crois que ça a
graves.
brillé au moment où il y avait une nacelle qui avait fait des roulés-boulés dans une foire ou un truc comme ça, et les gens avaient été écrasés. Enfin là, ça a été trop pour moi en fait. Je crois qu'il y a eu un trop-plein.
Elle m'a dit, Lou, arrête tout. Non, elle m'a même pas dit d'arrêter. Elle m'a dit, Lou, je me sens pas bien. Je crois que je fais une crise d'angoisse. Je vais m'arrêter sur l'autoroute. Donc, moi là, je me suis dit, très bien. On a un problème, Houston. Houston, on a un problème. Mayday, mayday. Je vais m'arrêter sur l'autoroute. Mais tout ça pour dire qu'en fait, l'environnement, en tout cas à ce moment-là, sonore, a complètement influencé
Totalement.
sur la voiture. Mais c'est pour dire qu'en fait, ce que vous allez regarder, ce que vous allez ingérer, moi par exemple, ça me passionne, je le regarde comme divertissement, tu vois, parce que j'adore ça. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ça peut influencer, je peux pas aller plus loin que ce genre de choses, parce que si je vais plus loin, voilà, déjà qu'au quotidien, je me connecte, je fais souvent des consultations médiumniques où je me connecte à des personnes qui sont décédées de manière, on va dire, on va se mentir, des fois atroce ou violente. Des choses comme ça. Donc si en plus je regarde des films qui font peur, je veux dire, ma journée, elle est bien chargée, tu vois.
Ouais. Et puis c'est toujours cette idée qu'effectivement le corps émotionnel, l'émotionnel, ça influence vachement finalement après le corps physique.
Complètement.
De toute façon, une crise d'angoisse, c'est quoi? C'est ton mental qui, c'est les émotions qui prennent le dessus, t'arrives plus à gérer, t'arrives plus à te raisonner. Et donc ça part un petit peu en sucette. Bon, je vous rassure, à la fin j'ai réussi à respirer. Donc elle m'a mis Disney juste après. Je lui ai dit, vas-y, ouais, Disney, Disney, c'est bien. Elle m'a mis des podcasts sur Disney, des chansons de Disney. On s'est arrêté à l'aire d'autoroute suivante. Je suis descendue, j'ai bu un coup, j'ai respiré, on est reparti, ça s'est bien passé. Mais ouais, ça m'avait vraiment. Ça m'a. Ouais, non, c'était pas bon. C'est pas pour moi. Donc c'est pour ça, tu vois, il faut se connaître soi-même, connaître ses limites. Et puis quand c'est stop, c'est stop.
Je voulais te parler de quelque chose qui était quand même important pour moi, en tout cas dans ma sphère spirituelle à moi. Souvent on parle de superstition. Moi par exemple, je mets souvent du sel. Je conseille à mes clientes de se laver avec un certain protocole pour se protéger. Je parle de bulles de protection. Voilà, pour moi c'est quand même quelque chose de très important. Mais je vais te parler de certaines superstitions qui sont très connues, comme faire tomber du sel, tu sais, sur la table,
Passer sous l'échelle,
passer sous
voir un chat
l'échelle,
noir.
voir un chat noir. Que penses-tu de ce genre de superstition? En termes, en fait, je veux ton avis en termes d'expertise de loi de l'attraction.
Ok, bah alors donc c'est très simple. c'est encore une fois, on en revient à la loi de croyance, parce que plus que la loi de l'attraction, on devrait l'appeler la loi de croyance, et ce que tu crois se manifeste. Point final. Donc si tu as une superstition qui dit que si tu passes sous une échelle, il va t'arriver une poisse dans la journée, tu peux être sûre et certaine que ça va arriver. Parce qu'en fait, c'est ta croyance qui va se manifester. Si tu penses que si tu vois un chat noir, il va arriver un truc, tu peux être sûre que ça va se passer. C'est la loi de croyance, pour moi, en termes de loi de l'attraction, loi universelle. Et d'ailleurs, je conseille toujours, parce que vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment la Bible en termes de spiritualité et de santé, Le placebo, c'est vous, de Joey Dispenza. Il regroupe des dizaines et des dizaines de témoignages, d'expériences, de choses qui se sont véritablement passées, parce qu'en plus, lui, c'est un médecin, c'est un scientifique. Donc voilà, là, je sais que ça aide beaucoup les gens, et ça m'aide moi aussi, moi-même, quand il y a des expériences scientifiques qui prouvent que des fois, il y a vraiment des miracles qui se produisent et qu'on ne peut pas les expliquer. Bah, lui, il nous a fait un florilège dans Le placebo, c'est vous. Et il parle de toutes ces expériences-là. Il parle par exemple d'un monsieur qui pensait avoir été envoûté par un marabout, tu vois, un truc de magie noire et tout.
Complètement.
En moins d'une semaine, c'était fini. Alors que les examens à l'hôpital, il lui avait tout fait. Il n'avait absolument rien. Ah,
complètement d'accord. J'ai combien de clientes j'ai eu qui m'ont appelé. Ça fait longtemps que je fais ce métier de médiumité. Ça fait 5 ans, je travaillais aussi dans une autre entreprise avant, en partenariat. Et c'est vrai que j'ai combien de clientes qui m'appellent, qui me disent « Lou, je suis envoûtée dans la magie noire, il y a quelqu'un, il y a un sorcier qui m'a fait quelque chose, ça ne va pas dans ma vie. » Moi, je regarde, je fais mon travail pour déceler s'il y a quelque chose, mon travail de recherche comme une archéologue. Je cherche et il n'y a rien. Et en fait, là, je pense que c'est, avant de te rencontrer, tu vois, c'est ce moment-là où je me suis dit « Ok, si la dame elle est persuadée qu'il y a quelque chose, il se passe des choses. » Et il y en a que ça existe, hein, la magie noire, je veux pas mentir. Il y a des moments où ça existe, c'est très fort, etc. Il y a aucun problème. C'est vrai que c'est assez rare, ça existe. Et puis on peut toujours s'en sortir, il y a pas de problème dessus. Par contre, il y a des gens qui croient, qui sont complètement sous sortilège ou des choses comme ça, mais ils s'en sont tellement persuadés que ça devient réel en fait. C'est comme la personne qui dit mais moi il n'y a personne qui m'aime quoi, tout le monde m'en veut. Ouais, ça c'est des affirmations sacrément positives, ouais. Je vais pas en dire plus pour pas perturber mon subconscient, mais effectivement ce sont des affirmations qui sont hyper intenses. Et pareil, la magie noire, je suis complètement d'accord avec toi, mais alors complètement. Et c'est le mal du siècle, hein. Parce que en fait on se rend pas compte parce que personne n'en parle en fait, mais quand on travaille dans ce métier, moi j'avais 15 à 20 personnes par jour. Sur les 15-20 personnes par jour, il y en avait au moins 5 qui étaient persuadées d'être dans la magie noire ou d'avoir un sortilège, ou qu'il y a quelqu'un qui a été envoûté à côté d'eux et qu'il y a une problématique entre eux à cause de ça. Ça c'est vraiment le cliché hyper connu. Et d'ailleurs j'en parlerai dans notre podcast, mais il y a certains médiums qui jouent dessus, qui disent oui mais il a été envoûté,
ouais.
Alors que des fois oui ça peut arriver, on va pas se mentir, puis des fois non en fait. Et donc c'est très intéressant, effectivement la loi de la croyance, moi je la vois vachement dans mon métier. Et je vois que ça fonctionne vraiment fortement.
Ouais, ce que tu crois se manifeste. Et donc vraiment si les gens veulent approfondir, le livre il recoupe tellement d'expériences qu'au bout d'un moment tu te dis mais en fait c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Et tu sais en plus c'est des expériences du monde entier, tu vois, il va dans les tribus, il te rapporte des expériences du siècle passé, enfin plein de trucs vraiment bien documentés. Qui aide ton subconscient à se dire en fait oui bah ouais, il a raison en fait, les gens qui marchent sur, tu sais, sur le feu, ou les gens qui marchent sur des morceaux de verre brisé et ils n'ont rien, ou alors ceux qui avalent des tu sais, qui se mettent des sabres ou des trucs comme ça, il y a une tribu je sais plus où qui fait ça, des spectacles dans la rue, ah non voilà, ils avalent des morceaux de verre s'il te plaît. Bah, ils n'ont rien. Ou les gens qui se font mordre aussi par des serpents venimeux et ils meurent pas.
Pour avoir
tu sais, dans les
meilleures homéostasies ou quelque chose comme ça.
Je sais plus, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée qu'il y a des gens, ils font des trucs qui tueraient n'importe qui, mais eux, ils ont tellement la croyance qu'ils sont protégés, et puis c'est tellement ancré dans leur culture.
Ça, c'est fou, ouais.
Donc c'est leur croyance, en fait, ils sont nés avec ça, ils ont grandi avec ça, et pour eux, ça fonctionne, et donc ça fonctionne. Mais c'est la loi de croyance pure et dure, quoi.
Ah mais c'est impressionnant, je pense, au quotidien. Bon, moi je le vois dans mon métier à moi, par rapport aux sortilèges, tout ça, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Combien j'ai de petites mamies qui m'appellent et qui me disent voilà, je parle avec quelqu'un sur Facebook, mais il y a un médium qui m'a dit qu'il a été envoûté, donc ça mettait du temps à venir à moi et je le sais parce qu'il m'est arrivé ci, ça, ça, quand j'ai ça au téléphone. la petite mamie, je vais pas la choquer en lui disant non, tout est faux, mais je l'amène en fait à se re-questionner sur ça, parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et effectivement, je pense que quand tu crois profondément, et on le voit, on en parle souvent, on aime bien une personnalité ensemble. Je sais pas si on a le droit de citer son prénom. Tu sais qu'il y a des cheveux vraiment frisés.
Ah oui.
Qu'on adore.
Ah ouais.
On adore cette personne. Je sais pas si on a le droit de citer son prénom, tu crois ?
Je ne sais pas. Je pense que oui.
Ça commence... Tu crois ?
Bah, de toute façon, tu peux dire Afida.
Afida. On adore Afida Turner. Parce qu'on la trouve exceptionnelle, cette dame. Elle est exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle dans le sens où... bah, là encore, c'est une star. Et en fait, elle vibre. Démontre... C'est ça.
Elle vibre la star.
C'est ça. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, à partir du moment où tu y crois... Absolument, et ben il se passe des trucs.
Il se passe des trucs parce que dans ses musiques, etc., qui sont par exemple, elle a fait une reprise dernièrement de Etienne, je crois. C'est incroyable, c'est une star cette femme.
C'est ça.
Elle vibre autour d'elle, la star.
Parce qu'elle a des punchlines, c'était quoi qu'elle a dit l'autre jour ?
Elle a des punchlines, on joue pas dans la même division.
C'est ça, en fait, à un incroyable. Moment donné, vous savez que la loi de l'attraction, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Il faut déjà. Être nous, dans notre esprit, dans notre vibration, dans notre croyance, comme ce que l'on aimerait avoir dans le futur. C'est-à-dire que c'est un petit peu se jouer un film. Et cette dame-là, c'est ce qu'elle fait. Elle est vraiment... Alors, dans l'extrême, tu vois, c'est... Mais c'est justement, ça donne un exemple de ce que ça peut donner. C'est vraiment, j'y crois à 1 milliard de pourcents, et peu m'importe ce que disent les autres, peu importe ce que pensent les autres, moi, je suis une star, moi, ceci, moi, cela. Et finalement, bah, la dame, elle a du succès, quoi. Donc...
Mais clairement, soyez Afida Turner. Je vais pas vous mentir, il faut être Afida Turner. Mais c'est vrai, non ?
Il faut y croire, il faut y croire. Et il faut être déjà dans le personnage. Alors, personnage, c'est vrai que c'est pas très joli à dire. Mais en tout cas, déjà être dans la vibration de ce que l'on souhaite obtenir. Donc tout le monde n'a pas envie d'être une star. Mais si vous voulez être, je sais pas moi, le meilleur en sport, les gens le font beaucoup. Les sportifs de haut niveau visualisent et s'imaginent en train de soulever la coupe, en train de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce sont des techniques qui sont véritablement utilisées dans le sport de haut niveau parce qu'ils savent que ça donne des résultats. Et ça n'a rien de magique, tu vois. C'est plus... à eux, on leur présente en termes de subconscient, justement, de croyance, etc. Parce qu'en fait, ton subconscient, quand il vit les trucs en avance, après, il rejoue la scène, c'est tout. Et c'est beaucoup plus facile pour lui, en fait.
Non, mais c'est incroyable. Bon, moi, j'adore, hein, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que, bah, par exemple, cette dame, elle m'inspire beaucoup. Parce que je me dis, en fait, quand tu veux quelque chose, sois comme elle, en fait. Quand les vibrations s'alignent avec toi-même, qui tu es profondément, ça vient à toi. Alors, on ne dit pas que sa vie a dû être facile ou qu'elle a dû avoir les choses comme ça.
Pas du tout.
C'est en termes de vibration, ce qu'elle aimait. Elle aimait la star. Bon, elle l'est aussi, hein. Mais c'est incroyable, moi je trouve ça fou à certains moments de rencontrer des personnes comme ça. Donc, et t'as complètement raison, c'est une question de loi de l'attraction, mais peut-être une question de loi de vibration.
Oui, c'est ça, de toute façon, quand on parle de loi de l'attraction, c'est un peu pour donner un titre aux 14 lois universelles, mais en réalité, il faudrait les connaître toutes par cœur, parce que s'il t'en manque une, bon, à la limite, la loi du genre, ça peut passer un petit peu à l'as, mais il faut quand même toutes les connaître pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce qu'après, tu vois, il y a la loi de la gestation. La gestation, c'est apprendre la patience. Elle est pour toi, celle-là. Parce que quand on veut faire un bébé, eh ben, on est obligé d'attendre 9 mois avant qu'il arrive. On ne peut pas dire, oui, mais j'ai envie que ce soit dans 3 mois. Ben non, il va falloir attendre 9 mois. Donc, la loi de gestation nous apprend la patience. Quand on plante une graine, vous savez que la graine, elle pousse dans l'obscurité, dans la terre, et il faut un certain temps avant qu'on puisse voir les feuilles sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas. Ça veut dire qu'elle pousse dans l'ombre, dans l'obscurité. On ne la voit pas. Donc, nous, dans notre cas, dans les objectifs que l'on se fixe, etc., au quotidien... Tout le monde, en fait, dans les projets que l'on a, quand on plante une graine, il y a un temps de gestation qui fait qu'on ne va pas voir les résultats.
Complètement.
Et c'est bien pour ça que je parle de 90 jours quand je parle donc, aux gens qui veulent employer la loi de l'attraction. Donnez-vous au moins 90 jours sans voir de résultats. De toute façon, ils arrivent tous avant 90 jours, les résultats. Mais donnez-vous au moins ce temps-là de 90 jours de dire « Ok, je vais faire tout ce qu'il y a à faire pendant 90 jours et même si je ne vois pas les résultats, je continue. » En sport, c'est prouvé aussi que les résultats, tu les as au bout de 3 mois. Tu commences à voir les résultats. Si tu abandonnes avant, bah, tu ne vas pas les voir les résultats. Ça ne veut pas dire que ton corps n'est pas en train de changer, de se muscler, etc. Ça veut juste dire que tu ne le vois pas. Donc cette fameuse idée de Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et ben en fait, il faut faire les choses à l'envers. Parce que si tu ne crois que ce que tu vois, ben tu n'es pas prêt de voir grand-chose. Ou de croire grand-chose, en tout cas.
Il faut de l'espoir, en fait. De l'espoir
et de la confiance.
Et de la confiance, ouais.
La confiance.
C'est une question d'espoir, effectivement, et de confiance. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que toi, tu avais une question à me poser qui te taraudait l'esprit ? J'aime bien laisser la parole à l'invité sur quelque chose qui se pose comme question ou pas du tout.
Ah non, mais moi j'aurais mille questions parce que la médiumnité c'est quelque chose qui me passionne justement depuis le début en termes de spiritualité. On en a souvent parlé. Moi je dis tout le temps, moi j'ai pas de perception extrasensorielle, je n'entends pas.
Fais ma masterclass, fais ma masterclass, fais ma formation, mon accompagnement.
Exactement, on va voir si ça développe quelque chose, mais en même temps, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si je suis prête à ça, donc je vais voir.
Je fais un accompagnement de A à Z, donc ça va en douceur en fait. Hein. Il y a un accompagnement qui existe complet où on va vraiment en douceur, où je t'accompagne, où tu vas pouvoir te connecter à des histoires, où il y a des soins audio. Il y a tout en fait qui va expliquer de A à Z. Je ne peux pas le décrire mieux que ça, avec une méthode de protection efficace et des cas concrets surtout. Et puis, c'est long en fait. C'est une formation qui est longue et qui va en douceur. Le but, c'est pas d'un coup choquer la personne.
Le but, c'est de développer l'intuition. C'est, par exemple, pour quelqu'un comme moi, à quoi ça servirait ?
Ça d'avoir servirait plus à d'intuition. En fait, toi, c'est une question de confiance, te faire confiance, parce que je pense que t'es très sensible et que tu captes des choses, mais comme si tu ignorais les informations. Moi, c'est ce que je ressens de toi, tu me dis, ah, c'est ce que tu penses, c'est la première fois qu'on en parle, mais j'ai l'impression que tu ressens des choses. Mais c'est comme si, comme c'est un film, tu n'y prêtes pas attention. Ou comme si tu n'avais peut-être pas envie d'y prêter tant attention que ça, de peur que...
Oui, moi, de toute façon, par exemple, je crois que j'aimerais pas voir des défunts, tu vois. Moi, il faudrait pas que ça passe par la vue, ça me ferait trop peur. Donc, je pense que là où ils savent que vaudrait peut-être mieux passer, par exemple, par la clairaudience, tu vois. Ça, je pourrais peut-être gérer mieux, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai appris à gérer au quotidien avec l'univers. Tu sais, j'ai une communication constante. J'ai la ligne constante, en fait, avec l'univers, en mode... tu vois, les signes, je les vois. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, comme vous, les médiums, qui va être vraiment... en mode, je vois un truc, j'ai un flash dans mon esprit, j'entends, tu vois, c'est
mais
pas...
Mais ça m'arrive rarement, hein. Ça m'arrive, j'ai peu de consultations de médiumité, j'en ai peu par mois, parce que je veux y aller en profondeur, etc. Donc je me propose peu par mois, elles sont toutes bookées au bout de 3 jours que j'ai lancé mon planning. Donc j'en ai peu, ça m'arrive rarement, ça m'arrive sur des choses très importantes. Là, dernièrement, on avait parlé de quelque chose ensemble qui était très important. Ouais, là, ça va m'arriver. Quand il y a des choses importantes...
Ah oui, ça avait l'air vachement... Enfin, tu l'avais vécu, le truc, quoi, quand tu m'as raconté.
Pour des personnes, pour les aider, en fait. Ça va vraiment avoir... Si tu veux, le but de ressentir ça, c'est pas juste pour parler avec ton papy que t'as pas vu depuis 10 ans. Et voilà, non, souvent, ça vient vraiment aider la personne dans son cheminement. Et ma formation, c'est pas une formation pour être médium, mais c'est une formation pour développer tes capacités extrasensorielles, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance... la clairolfaction, etc., etc. Tu vois, toutes tes perceptions, en fait. Ça va servir à ça. Et surtout, c'est vraiment un accompagnement parce qu'on est sur un groupe, mais tout le monde me parle en privé. Et moi, j'aime ça, tu vois. Et en fait, en fonction de ce que la personne, elle traverse, je change la formation. C'est-à-dire que je rajoute... Là, j'ai 2-3 vidéos à rajouter. Je rajoute des trucs. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un me disait l'autre fois, oui, super bien ton exercice de respiration, seulement, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à souffler comme ça. J'arrive pas. Donc, j'ai trouvé la technique de l'astronaute, qu'ils utilisent les astronautes, pam, je rajoute la vidéo, tu vois. Super. Donc, c'est vraiment ça, c'est évolutif. Donc, ouais, je te conseillerais quand t'as le temps, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut savoir que on a effectivement un temps.
On a un problème de temps, nous.
Oui, on a un problème de temps, je pense. Concrètement.
Mais en fait, non. On n'a pas de problème de temps, parce que sinon, c'est ce que l'on matérialise. Donc, nous sommes le temps.
Nous sommes le temps.
Nous sommes le temps. voilà, il faut juste qu'on le gère un petit peu mieux.
Je pense, ouais.
On apprend chaque jour à gérer un petit peu mieux notre temps.
Ouais.
Il y a des jours plus compliqués que d'autres aussi, hein, faut accepter. C'est pas grave. Du moment qu'on est dans l'acceptation, ça va, on est dans l'acceptation, on est dans les bonnes vibrations.
donc voilà, bah, écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Est-ce que tu avais un mot pour la fin ?
Ne poursuivez pas vos rêves, atteignez-les, parce que poursuivre ses rêves, je disais ça au tout début et je me suis rendu compte que poursuivre c'est pas bon, parce que sinon tu vas courir après toute ta vie. Donc voilà, et des objectifs clairs dans ta vie, des projets, de même qu'on prévoit nos vacances souvent, tu sais, les gens, le projet maximum qu'ils ont en général, c'est les prochaines vacances. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a nos prochaines vacances ? On regarde où est-ce qu'on va aller, quelle voiture on va louer, on regarde un petit peu l'endroit, etc. Tu vois, on est déjà dans la visualisation, c'est de la loi de l'attraction
que tu rétends. Elle est une pro de planifier des vacances, je me dis pas, moi avec elle, moi qui y vais un peu, moi j'aime bien, tu vois, me laisser surprendre par l'univers de temps en temps.
C'est vrai.
Ah non, mais Cindy, elle nous a prévu la voiture, le trajet, on s'arrête sur 7 heures d'autoroute, non, j'exagère, mais quasi.
Du presque.
Ouais, mais c'est vrai que Il faudrait coller ça, en fait.
Dans notre vie, en fait.
Complètement.
Quels sont les projets pour les 1, 2, 5 prochaines années? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc, avoir les idées claires, me mettre en marche pour le faire, continuer à faire des petits mantras, des petits rituels, ce genre de choses, à être connecté, avoir les signes, etc. Et manifester, quoi. Et atteignez vos rêves, atteignez, parce que c'est faisable. Hein. Donc, par contre, ça demande de la constance, donc de la patience, de la persévérance, et connaître un petit peu toutes ces lois, parce que ça aide.
Complètement.
Ça aide sur le long terme parce qu'on ne va pas changer sa vie en 3 mois, on va avoir des résultats sur un domaine. Puis après, il va falloir retenter un autre domaine.
Ouais, un domaine, etc.
C'est un chemin.
Puis moi, je pense que c'est aussi beaucoup une question de dialogue intérieur. Il faut faire attention aux mots que vous choisissez, comment vous vous appelez. Combien j'ai de clientes qui me disent oui, mon dialogue intérieur, c'est de me dire je suis nulle, quoi. Et ouais, c'est ça qui est dur. C'est dur aussi. Et c'est une question de confiance en soi. Et c'est un travail, en fait, on ne va pas se mentir, de toute une vie, quelle que soit notre élévation.
C'est ça.
C'est des questions que tout le monde se pose. Nous, on en parle là, à travers toi, l'attraction, et moi, la médiumité, mais c'est des questions que tout le monde se pose et tout le monde franchit certains caps. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour ce podcast. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir, en tout cas, ici.
Merci à toi de m'avoir invité.
On a rencontré des problèmes avec Mercure rétrograde, ou pas d'ailleurs, peut-être même pas Mercure rétrograde, mais en tout cas, on a rencontré des petits soucis filaires, etc. Donc, je suis trop contente de t'avoir accueillie. Et si jamais tu veux revenir pour un autre podcast, pour un autre sujet, si jamais vous avez d'autres idées aussi en commentaire que vous voudriez savoir, s'il y a quelque chose qui vous intéresserait en particulier ou pas, là, c'était vraiment un podcast un peu freestyle, on va dire. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment prévu mes questions et j'avais envie vraiment de partager ce moment avec vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On vous embrasse fort et on vous dit à très vite.
Bisous.
Bisous.